Mais d'abord, on va aller rejoindre la docteure Caroline Couach, qui est pédiatre, microbiologiste, infectiologue à Sainte-Justine. Bonjour, docteure Couach.
Bonjour, Monsieur Drainville.
Bon, là, est-ce qu'on s'excite pour rien ou est-ce qu'on a raison d'être heureux?
Ben, je pense qu'on peut être optimiste, mais on n'a pas encore toutes les données pour s'exciter pour vrai. Alors, il faut quand même réaliser que le communiqué de presse qui a été émis ce matin, qui disait qu'il y avait que le vaccin de Pfizer contre la COVID avait une efficacité de 90%, mais ces données-là n'ont été vues par personne. Donc, tant les organismes réglementaires que les pairs scientifiques, que les comités aviseurs aux différents paliers de gouvernement, aucun d'entre nous n'avons vu ces données-là. Et même ce que Pfizer disait dans le communiqué de presse, c'est que les données sur la sécurité du vaccin allaient être regardées seulement vers la fin novembre. Donc, ce sont des données très préliminaires, mais sans avoir vu les données, je pense que personne ne devrait conclure tout de suite là, que ça y est, on est sorti de crise.
Bon, parce que ça, c'était ma question suivante. Efficacité à 90%, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est sécuritaire. Efficacité n'égale pas sécurité.
Tout à fait. Et c'est pour ça que les études de phase 3 ont un si grand nombre de participants. C'est à la fois pour regarder l'efficacité, mais aussi pour être capable de détecter des effets adverses qui surviendraient de façon assez rare. Donc, on parle de dizaines de milliers de patients dans toutes les études, justement pour être capable de capter ces effets adverses potentiels-là. Et c'est seulement en regardant ces données de sécurité-là qu'on peut dire, bon, ben ça va, tu sais, on n'a pas à 1 sur 10 000 ou 1 sur 20 000, on trouve rien qui nous inquiète, donc on peut continuer à avancer. Mais effectivement, la sécurité et l'efficacité, ce sont deux enjeux parallèles qu'il faut regarder l'un comme l'autre.
Donc, en d'autres mots, on pourrait avoir un vaccin, puis j'imagine que c'est déjà arrivé dans l'histoire, qui combat bien le virus, mais qui suscite, qui provoque toutes sortes d'effets secondaires qui font en sorte que, dans le fond, on ne peut pas l'utiliser, ce vaccin-là.
Oui, c'est arrivé. Mais là, au moins, on a des études de phase 2 qui semblent démontrer que ça va, là. Mais vous avez tout à fait raison qu'il faut les regarder, ces études de phase 3-là, pour les données de sécurité aussi.
Bon, rappelez-nous, Dr Couach, ce que ça fait, un vaccin. Parce que plus on se rapproche du développement du vaccin et de l'éventuelle campagne de vaccination, plus il y aura des questions là-dessus, aussi bien commencer à les aborder. Ça fait quoi, très mécaniquement, un vaccin?
C'est en fait un petit morceau du virus qui est présenté à notre système immunitaire pour le stimuler, pour dire, regarde, commence à développer des petits soldats pour que quand le vrai virus va arriver, tu seras déjà prêt, tes anticorps seront développés, ton immunité cellulaire aussi, puis notre corps sera capable de maîtriser le virus tout de suite et donc empêcher une infection grave. Est-ce que ça va empêcher, comme on en a parlé la semaine dernière, là, est-ce que ça va empêcher toute infection? On ne le sait pas encore. Mais une infection avec une complication grave, si déjà on était capable d'en arriver là, ça serait déjà très bien. Et donc, c'est ce que ça fait un vaccin. Ça présente un morceau d'antigène, donc un morceau de virus qui va chatouiller notre système immunitaire pour dire, regarde, prépare-toi, là, comme ça, quand tu vas le voir pour vrai, tu vas être prêt.
Donc, quand Pfizer et son partenaire allemand nous disent... Le vaccin qu'on a développé en phase 3 nous fournit la preuve de la capacité à prévenir la COVID. Donc, ça veut dire qu'ils ont, disent-ils, hein, c'est à confirmer, mais ils ont développé un vaccin qui fait en sorte que les anticorps se développent et quoi, lorsqu'on injecte le virus vivant, le corps se défend bien et neutralise le virus. Qu'est-ce qui se passe?
Ça veut dire, en fait, ce sont pas des études de challenge, hein. C'est vraiment des études où les gens sont vaccinés avec le placebo, le vaccin, puis ils vont vaquer à leur vie et sont exposés au virus parce qu'il y en a partout. Et ce que ça veut dire, c'est que les gens qui ont été vaccinés n'ont pas développé de maladies symptomatiques qui étaient positives pour COVID versus ceux qui n'ont pas été vaccinés. Donc, par exemple, moi, je me fais vacciner, puis vous ne faites pas vacciner parce qu'on va faire ça comme ça. Là, je vais me donner le vaccin à moi quand même. Et on continue à vivre notre vie. Moi, au bout de X semaines, j'ai pas développé la maladie, mais vous l'avez développée. Donc, le vaccin me protège et ne vous a pas protégé parce que vous ne l'aviez pas eu. Mais c'est donc c'est des.
Mais comment savoir que dans votre exemple, vous avez bel et bien été exposé au virus parce que dans le fond, vous auriez pu ne pas développer d'anticorps parce que vous n'avez pas été exposés au virus?
On regarde le développement d'anticorps aussi. Ça, ça s'appelle l'immunogénicité. Mais en plus de ça, on regarde si une personne a développé l'infection ou pas. Vous avez raison que si moi j'ai été vaccinée, mais que je me protège super bien puis que j'ai jamais été exposée au virus, je pourrais avoir l'air protégée.
Oui.
Mais les études sont faites dans différents milieux où il y a de la transmission communautaire et où on est capable de dire ah oui, ben telle personne, on le sait, elle a été exposée, mais malgré tout, elle n'a pas développé la maladie.
Mm-hmm.
Et en théorie, si l'étude est bien randomisée, cette protection-là ou cette non-exposition-là au virus devrait être similaire dans les deux groupes. Mais c'est pour ça qu'on vous dit, tant qu'on n'a pas vu ces données-là, qu'on les a pas étudiées de façon beaucoup plus fine,
bon.
de clamer tout de suite que le 90% d'efficacité est réel, c'est prématuré.
D'accord. Là, il faut, parce que je lis, ça va prendre deux doses. Hein? Une dose, ça ne sera pas suffisant, là.
Exact. Donc, ce vaccin-là a été développé avec deux doses, où la première dose protège probablement un peu, mais le protocole a été développé avec deux doses, justement pour avoir une immunité à plus long terme. Encore une fois, il va falloir voir là, pendant combien de temps ce vaccin-là protège.
C'est ça.
On n'a pas besoin d'attendre 3 ans là, avant de dire « OK, ça protège ». On peut dire « ça protège une saison, ça va », ou « ça protège un mois et demi, 2 mois », mais il faut quand même savoir de combien de temps on parle présentement.
Et entre les deux doses, il se passe combien de temps?
Si je me rappelle bien, c'est 21 jours.
Donc, tu le reçois une première fois, tu attends 21 jours, tu reçois une deuxième dose de vaccin.
Oui.
Et là, la réponse à la question pendant combien de temps est-ce que je suis protégé contre le virus, ça, c'est pas clair encore. On n'a pas la réponse à cette question-là.
On n'a pas la réponse à cette question-là, mais c'est normal. Je veux dire, je pense pas qu'on ait besoin d'attendre cette réponse-là parce qu'autrement, on n'aurait pas de vaccin avant 3 ans. Mais il va falloir. C'est sûr que ces patients-là vont être suivis dans les études pour voir au bout de combien de temps on commence à avoir des échecs là, du côté des personnes vaccinées. On va espérer que ça dure au moins une saison puis que ça puisse couper la transmission. Mais effectivement, il faut attendre d'avoir ces réponses-là. On peut pas avoir toutes les réponses au moment où on émet le communiqué de presse.
D'accord. Bon, là, c'est ça l'affaire. C'est qu'on regarde ça, puis on se dit, bon, on regarde l'action de Pfizer, évidemment, qui est fortement à la hausse. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est pour ça que je disais d'entrée de jeu, je veux pas qu'on s'excite trop, parce que, dans le fond, il y a une part de marketing dans ce communiqué-là, là, Mme Quash.
Je pense qu'il y a une grande part, part beaucoup plus économique que scientifique, parce que si ça avait été basé que sur la science, on aurait attendu d'avoir aussi les données de sécurité, on aurait pu commencer déjà à présenter les données au comité aviseur, ce qu'on n'a pas encore. Donc, je pense que la compagnie dit on a des bonnes nouvelles, on va l'annoncer à nos actionnaires.
Ouais.
C'est d'abord ça qui est fait aujourd'hui.
Ouais.
Mais d'un côté, du point de vue santé publique et science, nous, on va attendre de voir les données avant de conclure. Et je pense que l'autre chose qu'il faut se rappeler aussi, c'est que même si le vaccin était super bon, on n'en a pas suffisamment de doses pour vacciner toute la population. Et le déploiement de ces vaccins-là va se faire sur plusieurs mois. Et donc, c'est pas parce qu'on a un vaccin en poche qui fonctionnerait qu'on peut arrêter toutes les mesures de distanciation physique, les masques et tout le reste.
Voilà.
Les deux vont aller de pair pendant quelques mois.
Je vous rappelle, là, le Canada a commandé 20 millions de doses auprès de Pfizer, donc à deux doses, devrais-je dire, par personne. Ça voudrait dire qu'on pourrait, là, si tout va bien, là, immuniser autour un petit peu moins que le tiers de la population canadienne, donc 10 millions de personnes là, à deux doses chacune. Donc, et puis là, on irait présumément avec l'ordonnancement dont on a parlé la semaine dernière, Dr. Quash, donc avec les personnes les plus vulnérables, les personnes qui travaillent dans le réseau de la santé, et on irait comme ça là, par ordre de priorité.
Ben pas nécessairement, parce que dépendamment de l'efficacité dans les différents sous-groupes, si le vaccin de Pfizer est démontré absolument pas efficace chez les 70 ans et plus, puis ça je dis n'importe quoi parce que j'ai pas vu les données,
d'accord. Ben
on commencerait pas par ce groupe-là, on pourrait commencer par des plus jeunes et donc potentiellement par les travailleurs de la santé. Mais donc quand je vous disais que l'ordonnancement serait beaucoup plus fin une fois qu'on aurait les données de phase 3, c'est exactement pour ça. On a besoin de savoir dans les gens qui ont eu le vaccin et qui ont eu des échecs. Est-ce que c'était des personnes avec des conditions médicales sous-jacentes? Est-ce que c'était des personnes racisées? Est-ce que c'était des personnes âgées? 4G. Qui étaient ces gens-là? Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de voir les données présentées de façon transparente. Je pense que ça va venir, mais elles ne sont pas encore prêtes aujourd'hui.
Les deux compagnies, Pfizer et BioNTech, la firme allemande, affirment qu'elles ont commencé à fabriquer le vaccin. Est-ce que c'est-tu habituel, ça, même si tu n'es pas arrivé au bout de l'étude, que tu commences déjà à le fabriquer? Savez-vous ça, Dr. Quach?
Non, habituellement, on attend d'avoir les données, mais là, comme on est dans une pandémie, tout est une question de financière. Hein? Habituellement, la raison pour laquelle on ne commence pas à fabriquer les vaccins avant d'avoir tous les résultats puis avant d'être passé à l'homologation, c'est qu'on se dit, là, s'il faut que j'investisse des milliards puis qu'en bout de ligne, ça ne marche pas, je viens de me tirer dans le pied. Mais là, compte tenu de l'urgence sanitaire, toutes les compagnies font la même chose. Les choses se font en parallèle au lieu de se faire en série avec des mois et des années, parfois, entre les différentes étapes. D'accord. Donc là, ils ont l'impression que ça augure bien. Ils se sont dit, écoutez, on va commencer à produire parce qu'on veut être capable de livrer les vaccins aux différents pays le plus rapidement possible. Je pense que c'est très bien. Mais ils savent qu'ils prennent un risque. Là, ça se peut qu'à la dernière minute, les données ne soient pas aussi bonnes qu'escomptées puis qu'ils soient obligés de retirer leur pays du jeu.
Et là, l'action de Pfizer, au lieu de monter de 10 % risque de planter de 10 %
C'est possible. Mais
oui,
c'est à eux de...
Oui, voilà.
C'est leur risque à eux.
Ils gèrent leur risque, exactement. Oui. C'était très clair, Dr. Caroline Quach, pédiatre, microbiologiste, infectiologue à Sainte-Justine. Et je le rajoute, présidente du comité consultatif national en immunisation de l'Agence de santé publique du Canada, qui s'est justement penchée sur l'ordre de priorité des personnes qui seront vaccinées en premier. On verra bien selon les caractéristiques du vaccin, Dr. Quach. Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Après la pause, alors écoutez, on ne va pas bouder notre plaisir. La bourse monte parce que les compagnies se disent « Ah ah! Possibilité de vaccin, ça veut dire que l'économie pourrait reprendre du pic plus rapidement que prévu. » Puis il y a l'arrivée de Biden dans le portrait aussi qui rassure, qui sécurise. Alors on va faire le point un petit peu sur ce qui se passe avec vos REER, avec vos régimes de retraite après la pause.